La Loire Atlantique en canot, initiant d'André, Marie, Claude et tous les autres. Aujourd'hui, Saint-Étienne de Mirmort. Saint-Étienne de Mirmort est une commune peut-être bien plus connue des nombreux habitants de Loire-Atlantique. Elle se situe sur une petite route isolée entre un triangle, Pau, la Marne, non loin de Machecoul. Saint-Étienne de Mirmort nous a assuré aujourd'hui sur un événement qui marchera certainement aux annales stéphanoises. L'exposition d'hier à demain, préparée par la commission culturelle. Nous retrouvons un habitué, je dirais, de la radio, Frère Guérin. Frère, ce nom de Saint-Étienne de Mirmort est curieux. Pourriez-vous nous en conter l'origine et l'histoire à travers les âges?
Alors, le nom de Saint-Étienne de Mirmort, on le fait remonter, disons, à l'époque romaine. Il viendrait, d'après certains, de la déesse protectrice des abeilles, Mélona, et du dieu Mars. Ce qui a donné, disons, on trouve le premier nom mentionné, Ecclesia Mello Martis, en 1123. Ensuite, on va trouver en 1239 Sancti Stefani de Malamorte. Puis, en 1383, Saint-Étienne de Malamort. Et finalement, au XVIIIe siècle, on restera avec Saint-Étienne de Mirmort. Et Saint-Étienne de Mirmort a commencé, disons, bien avant cela, bien avant cette période historique. Il y a d'abord au point de vue de la préhistoire. L'implantation des habitants est assez difficile à cerner. Vraisemblablement, des abris sous roches sur les bords escarpés du Saleron, propices pour la chasse, la pêche et puis refuge en cas de danger. Cette présence est certifiée par la découverte d'haches de pierre polie, aussi une hache de l'époque du bronze. Si on revient à l'époque romaine, on s'aperçoit que Saint-Étienne de Mirmort faisait partie de la province romaine qu'on appelle la Seconde Aquitaine. Et on en a des preuves avec des restes d'enforts, de canalisation, de rampières cuites. Mais le lieu d'implantation exact reste encore à définir. Sans doute existe-t-il dans la campagne des traces d'anciennes villes. Avec la période historique, on peut trouver une première implantation de Saint-Étienne sous les Mérovingiens. Sous Clotaire Ier, en 546, on s'aperçoit qu'elle fait partie de ce royaume de Clotaire. Puis, en 614, elle appartient à ce moment-là à la Neustrie. La région était peuplée surtout par les Pictons installés autour de la baie de Bourmeuf qui comportait autant d'îlots, dit-on, que de jours dans l'année. Les habitants de cette région de la baie, qui était célèbre en particulier pour le sel, se livrent sans doute à la contrebande du sel, comme tous les habitants voisinant la baie. Alors le passage des contrebandiers, il est facile à repérer, disons, en suivant les rives du Saleron très encaissées, facile donc de se cacher des gabous en particulier. La rentrée dans l'histoire se fait en l'an 851, où on mentionne dans le traité d'Angers passé entre Héristory, roi de Bretagne, et Charles le Chauve, roi de France, le nom de Saint-Étienne de Mirmort. Situé entre la Bretagne et le Poitou, et sans faire partie directement des marches, et sous le lieu du passage obligé pour tous les combattants des deux bords. Saint-Étienne a fait partie à certaines périodes des marches de Bretagne, puis en a été retiré, puis est retourné, enfin il y a eu un va-et-vient, disons, assez continuel. Certains ont vu dans le nom Saint-Étienne de Mirmort, en particulier avec l'expression malamorcée, un rappel d'une sanglante bataille qui se serait déroulée en ce lieu. Là, il faudrait que les historiens essaient de lucider ce point. Puis, à Saint-Étienne, il y a surtout Gilles Doré, qui possédait le château érigé dès le XIIe siècle sur l'emplacement de l'ancien camp romain dominant la vallée du Saleron. On a essayé, dans l'exposition qui se déroule actuellement, de reconstituer le château. Pour reconstituer le château, on a utilisé pour cela les cadastres des années 1836, 42 et 72, qui nous donnaient simplement une idée du pourtour. quant à la construction elle-même, il a fallu, disons, faire des hypothèses. Le plus simple était de partir des documents et des tracés trouvés dans l'encyclopédie médiévale de Viollet-le-Duc pour essayer de faire une reconstitution approximative de l'extérieur. Puis on revient à Gilles de Rais. Gilles de Rais était propriétaire de ce château et pour couvrir ses dettes avait vendu à Ferreux cette châtellenie Saint-Étienne de Mermoz. Mais se plaignant, disons, de ne pas avoir été payé entièrement ou du moins pas assez payé, il va entrer dans l'église de Saint-Étienne faisant un véritable scandale. Au moment de l'office de la Pentecôte, il va molester, disons, Ferron, qui était le frère du véritable propriétaire. Son frère était, lui, adjoint, trésorier du duc de Bretagne de l'époque. Et Gilles de Rais pénètre pendant l'office. C'est un véritable scandale. Il saisit Ferron, qui l'en tenait à la gorge, et le menace de lui ôter la vie. Devant ces menaces, Ferreux va lui rendre les clés du château et faire baisser le pont-levis. Gilles de Rais avait pris ses précautions puisqu'il avait placé une soixantaine de ses hommes autour du château et de cette façon, il va le tuer très facilement. Après cet esclandre, c'est tout que Gilles de Rais va être poursuivi par Jean de Maletroit, évêque de Nantes, et le duc de Bretagne, et qui lui vaudra d'ailleurs d'être arrêté. Sur la place de l'église, disons de l'ancienne église, on trouve une plaque commémorative qui rappelle, disons, cet événement. Alors, bien qu'étant situé tout près de Machecoul et dépendant de la baronnie de Rais, il faut savoir que Saint-Étienne de Mermoz était sous la coupole, disons, sous la domination de la seigneurie de Vieille-Vigne. Et va dépendre de la seigneurie de Vieille-Vigne pendant de nombreux siècles. Et comment fait-il d'ailleurs que Saint-Étienne de Mermoz soit sous la dépendance de Vieille-Vigne? Oh, c'est très simple, puisque les seigneurs de Rais à ce moment-là étaient les de Machecoul, et tout simplement c'est la branche cadette qui va prendre possession de la seigneurie de Saint-Étienne de Mermoz. Qu'on va retrouver comme, disons, seigneur de Saint-Étienne de Mermoz, est-ce qu'ils vont y venir? Ce serait fort étonnant, puisque Vieille-Vigne étant tout de même assez loin et que Saint-Étienne se trouvant à la limite de la seigneurie, on va trouver quand même comme seigneur Jean de Machecoul qui rend hommage pour Saint-Étienne de Mermoz à Henri IV en 1580. Parmi quelques seigneurs on peut relever Henri de la Chapelle et Marguerite de Machecoul, sa femme, qui sont protestants et qui vont rendre hommage pour leur père à Louis XIV en 1666. Ensuite vient le marquis de Thianges en 1686, et puis les marquis de la Creuse, Gabriel Antoine en 1713, Armand Gabriel en 1721, puis le comte de Villiers en 1742, et enfin Jean-Gabriel Leclerc, mari de Juigné, en 1774, qui va rendre hommage pour Saint-Étienne. Mais il sera encore en place au moment de la Révolution. Il ne restera pas dans la région, il émigrera, et tous ses biens seront vendus comme biens nationaux. Voilà, disons, un petit mot, disons, sur Saint-Étienne de Mermoz au point de vue de la seigneurie. On pourrait parler, disons, de votre communication et des principaux villages. Et quand on regarde le tracé des routes actuelles, on s'aperçoit que Saint-Étienne est quand même assez bien desservie. Mais il faut savoir qu'au 19e, par exemple, les routes principales ignoraient pratiquement Saint-Étienne de Mermoz et semblaient vouloir le contourner. Est-ce que le nom lui-même faisait peser sur les gens une certaine crainte? C'est possible. Toujours est-il que les routes que nous trouvons actuellement datent simplement du début du 19e siècle, quand le gouvernement a jugé bon de mettre des routes droites pour pallier à toute nouvelle insurrection due à la guerre de Vendée. Dans les voies de communication, il ne faut pas oublier tout de même le Faleron, qui était une voie importante débouchant sur la mer, et c'était une façon sûre de pouvoir se déplacer. D'ailleurs, certains anciens parlent d'anneaux d'ancrage sur le bord de la rivière. Parmi les villes et villages, il en existe, disons, de très importants. Certains ont tout un passé, toute une histoire qu'il faudrait maintenant continuer à développer. On peut citer simplement les Rondelières, qui fut peut-être une ancienne commanderie des Templiers. Puis à la Poudrie, on trouve aussi le trace d'anciennes constructions. Saint-Étienne de Mermoz a été ignoré au Moyen-Âge, en particulier pour les chemins de Saint-Jacques. Chose assez curieuse, les pèlerins qui avaient traversé la Loire se regroupaient aux environs de Machecoul, et là, se scindaient en deux. Les uns partaient vers l'est, passant par la Jacqueterie sur la Marne, rejoignaient ensuite Touvois ou Leger, d'autres passant à l'ouest par l'hôpital, qui était une ancienne commanderie des Templiers, Varmes et Coudray, et puis ensuite rejoignaient Belleville-sur-Ville, Leger, avant d'atteindre Saintes et Saint-Jean-d'Angély. Une période aussi importante, c'est celle de la Révolution. En 1789, Saint-Étienne de Marmotte avait un vicaire, un curé, et on comptait 700 communions adultes, sans compter les enfants. Le revenu de la cure était estimé à l'époque à environ 500 livres. Au moment des états généraux, de la préparation des états généraux, on retrouve parmi les électeurs nommés pour le district un monsieur Vincent et un monsieur Jean Joyeux. Une religieuse, le cahier de doléances, et parmi les principales revendications propres à Saint-Étienne, il faut noter que la paroisse est si pauvre et qu'elle doit à différents seigneurs et propriétaires nobles de nombreuses impositions. En particulier, ils se plaignent de devoir moudre leurs grains aux fours d'anneaux et d'être astreints aux nombreuses corvées dont ils bénéficient guère du fait de leur écartement, disons, en dehors des routes principales. Et ils demandent aussi pour leur curé. Ils se plaignent que leur curé n'a pas de revenus suffisants et qu'on a attribué certains bénéfices fournis à des étrangers à la paroisse. Alors pourquoi ces bénéfices ne seraient-ils pas reversés à leur curé? Parmi les signataires, on va relever de nombreux noms de familles encore existantes. On trouve des Drouet, Audouard, Chariot, Ordrenaud, des Véronnières, Gabory, Vergne, Relais, Pelletier, Giraudet, Vincent, etc. Pour quelques événements importants dans cette période. En 1791, les habitants refusent le curé constitutionnel. Le 3 mars, ils sont poursuivis pour trouble religieux. Le 1er juillet, le district de Machecoul envoie des hommes pour arrêter l'abbé Roland, qui était curé réfractaire, et qui sera exécuté à Nantes en 1993. En 92, les gens privés de leur curé font une pétition pour demander son retour. En 1793, ce sera l'année, disons, tragique, un premier événement va se situer au début de l'année avec l'incarcération de Charlemagne Cordelier, qui était seigneur, disons, à la Caraterie, un château, disons, aux abords de Pau, mais dépendant de Saint-Étienne de Marmotte, qui était poursuivi pour avoir participé à l'incivisme des agriculteurs. Le 10 mars, les habitants de Saint-Étienne marchent sur Machecoul et participent sans doute aux événements qui se déroulent à l'époque. Le 25 mars, ils protestent encore auprès du district parce qu'ils ne veulent pas d'autres pasteurs que M. Roland. Pendant ce temps, le vicaire, et bien M. Rohard, vit dans la clandestinité. Il est connu surtout sous le nom de Jean Gris et exercera son ministère en cachette, passant de ferme en ferme. Et au cours de l'exposition, vous pourrez voir les nombreuses fermes qui l'ont abrité pendant cette période. Il ne reste pas simplement sur Saint-Étienne de Mermorte, comme les paroisses des environs, avec l'abbé Joguet de la Marne, Hervé de la Beauce de Machecoul, ont été arrêtés. Eh bien, il va exercer son ministère sur toutes les paroisses environnantes, en particulier à Saint-Jean-de-Corfouet, la Bonnatte, la Limousinière, Touvois et la Marne. Quand on parle des guerres de Vendée, il est impossible de passer sous silence Saint-Étienne de Mermorte. Saint-Étienne de Mermorte, eh bien, a vu passer de nombreuses fois charrettes allant ou revenant de ces nombreuses attaques sur Machecoul, qu'on dit même qu'il s'est reposé ici à Saint-Étienne. Ce qui, finalement, le district, essayant toujours de poursuivre le fameux Jean Gris, va ordonner des fouilles systématiques sur Saint-Étienne, en particulier sur une demoiselle, mademoiselle de Tarquet. Naturellement, le fameux Jean Gris va encore échapper une nouvelle fois aux poursuivants, et on trouvera simplement chez cette demoiselle des objets de pluie. Voilà, disons, en un mot, assez très rapidement, l'histoire de la Révolution à Saint-Étienne. Au début du 19e siècle, Saint-Étienne va être encore une nouvelle fois marqué par le soulèvement voulu par la duchesse de Berry, et qui rassemblera un certain nombre de ses partisans au château de la Caraterie, n'y venant pas elle-même. Ces insurgés, disons, vont être surpris à cette époque, et la dispersion aura lieu après l'attaque du château. Si on parle du château de Gilles de Ré, disons, de celui qui est dans cet Étienne même, il faut savoir que le démantèlement a commencé au moment de l'époque de la Ligue. Au 19e siècle, il n'existait, disons, pratiquement plus rien, quelques vieilles bâtisses, à peine, disons, utilisables, et les douves tout autour. Au début du 20e siècle, donc à notre époque, il existait encore la tour Barbe-Bleue, qui a fini d'être rasée complètement. on peut remarquer au 19e siècle un début d'industrialisation avec la construction d'un barrage sur le Favreau pour une minoterie. Que l'artisanat ici s'est développé d'une façon assez importante avec en particulier un atelier de vannerie. Depuis, c'est dans cette époque, vers la fin du 19e siècle, que jugeant la vieille église de Saint-Étienne de Vermort beaucoup trop petite, cette vieille église romane, eh bien, il s'est décidé d'en construire une nouvelle. Dans un premier temps, on voulait construire la nouvelle sur l'emplacement de l'ancienne. Des plans ont été faits d'ailleurs et qui se trouvent encore dans l'exposition qu'on peut voir. Finalement, il a été décidé qu'utilisant un terrain de la fabrique qui était beaucoup plus vaste, on construirait la nouvelle église en dehors de l'ancienne. L'ancienne fut rasée et le cimetière qui l'entourait, toutes les tombes ont été transportées dans le nouveau cimetière. Il ne reste plus maintenant que la place, tout près du vieux clocher. C'est là que se situait le cimetière et la vieille église. Et la nouvelle église avait cette particularité qu'elle n'est pas achevée et puis qu'il reste le clocher qui est séparé de la vieille église d'environ 150 ou 200 mètres.
Nous arrivons à Saint-Étienne de Vermort et ce vieux clocher, justement, dont vous nous parlez, où on voit le clocher pointu. Est-ce celui-là ou est-ce le clocher que vous avez vu, celui de la nouvelle église?
Alors, le clocher que vous apercevez, disons, de très loin, il s'agit de l'ancien clocher de la vieille église. C'est d'ailleurs une chose curieuse, bien des habitants de Saint-Étienne de Vermort ne savent peut-être pas qu'il existe un point de vue très intéressant sur Saint-Étienne, son vieux clocher et sa nouvelle église. Ce point de vue se trouve sur la route de Touvois, à un calvaire, je ne sais plus d'ailleurs quel est son nom, mais c'est assez curieux parce que de Saint-Étienne de Vermort, on aperçoit que le vieux clocher, le bâtiment de la nouvelle église et plus rien d'autre, le reste est caché par les bois.
Après l'historique de Saint-Étienne, nous allons écouter le père sujet de la paroisse de Saint-Étienne de Vermort, qui malgré ses 71 ans s'exprime avec fougue, avec enthousiasme, avec conviction à ses paroissiens réunis ce matin pour ouvrir, pour fêter tous ceux qui se sont donnés beaucoup de peine pour cette exposition Saint-Étienne d'hier à aujourd'hui.
Mais maintenant, après ce tour actuel de la paroisse, j'aime tout ce que le bon Dieu m'a donné une langue. Je vais lui demander de m'en servir pour qu'il parle à ma place. C'est lui maintenant, Dieu, qui vous parle. Jean de Saint-Étienne, vous portez un nom, les Stéphanois. Il y a un petit coin de terre que je vous ai donné au bord du Saleron, visité par d'autres communes. Et Étienne, je l'aimais bien, Étienne. Un des premiers martyrs, le premier martyr de l'Église. Vous portez son nom. Et des gens voulu accoler à son nom le vocable de Vermort. Eh bien, ça me plaît, ce nom-là. Il est original. Et vous distingue des autres. Et dans ce pays, eh bien, l'exposition d'aujourd'hui montre que justement, on y a travaillé, vécu, aimé, grandi. Et Vermort, malgré son nom, est bien vivant. J'en profite, dit Dieu, pour remercier tous ces gens qui veulent faire vivre l'histoire. Car le monde, je l'ai lancé, je l'ai voulu. Cette terre, j'ai voulu qu'elle soit habitée, mais je veux qu'elle continue. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, j'oublie Jean de Saint-Étienne, moi Dieu, puisque vous avez sous les yeux un travail formidable fait par des gens qui ont voulu faire revivre l'histoire, je vous demande de ne pas vous arrêter, mais continuer à faire vivre cette histoire et d'être les agents, les témoins de la vie d'aujourd'hui, non pas pour la diminuer, mais pour la grandir encore. Que croyants il y en avait, vous verrez dans cette exposition, les ornements d'église, l'ancien hôtel, tout cela, dit Dieu. Ça m'a fait plaisir de voir que des gens m'aimaient, que des gens travaillaient, que des gens vivaient, que des gens même souffraient, mais en pensant à mon fils, sur la croix, et c'est pourquoi aujourd'hui, puisqu'on inaugure cette exposition, moi Dieu, je suis là autour avec vous, car lorsque vous êtes réunis plusieurs, en mon nom et dans l'amitié, je suis au milieu de vous. C'est pourquoi je vous dis encore, vous êtes des vivants maintenant, pensez à vos anciens, qui ont tracé un chemin, mais continuez ce chemin, et que Saint-Étienne soit de plus en plus vivant et dynamique, et qu'il fasse bon y vivre dans l'amitié, comme vous avez l'habitude de le faire, dans l'entente, comme vous avez l'habitude de vivre, et dans, je pense aussi, la compréhension mutuelle. Voilà, je pense, ce que Dieu peut vous dire aujourd'hui par ma bouche. Je reprends ma langue maintenant. Et je vous prie à tous, du Saint-Étienne. Amen.
Exposition d'hier à demain, organisée avec soin et compétence par la Commission culturelle de Saint-Étienne de Mer-Morte. Alors, nous serons accompagnés dans cette visite par le frère Guérin, bien entendu, et monsieur Perrois de cette Commission culturelle.
De cette commission culturelle, on peut dire, enfin, natif de Saint-Étienne de Mer-Morte, et très intéressé par l'histoire de Saint-Étienne.
Je comprends, parce que nous avons été séduits par l'exposé du frère Guérin et de votre curé. Et là, nous commençons.
Alors, on peut commencer par le vieux château. Alors, vous avez ici une reconstitution qui a été faite. Vous avez en bas, il y a une vue aérienne qui nous a permis de retrouver approximativement les traces extérieures, comme vous disiez tout à l'heure, de l'ancien château. Alors, vous remarquerez ici l'hommage rendu par Prudent de Pontivy, seigneur de Saint-Étienne, de Malemort, en 1443.
C'était le gendre de Gilles de Rais. Il avait épousé Marie, fille de Gilles de Rais. Et à cette époque, en 1443, le seigneur de Rais essayait de récupérer Saint-Étienne de Malemort, qui avait été vendu, récupéré. Quelle était l'occasion du procès de Gilles de Rais, enfin, son arrestation et son procès.
Alors là, vous avez, dans cette étude de Mer-Morte, à l'église même, on n'en a pas parlé, un étrange bénitier avec des reproductions ici de différentes gravures que l'on trouve sur ce vieux bénitier. Alors, est-ce qu'il y a une histoire particulière? D'où viendrait-il?
L'interprétation est à trouver encore pour l'instant. On attend de cette exposition que quelqu'un de compétent puisse décrypter un peu le message, parce que un peu au niveau des personnages qui sont représentés, et de ce personnage sur la gauche en bas qui ressemble à une sirène, on peut se poser toutes les questions qui sont posées à propos des figurines du haut Moyen-Âge, et l'interprétation n'est pas facile à donner. Nous n'avons pas la compétence. Hein.
Alors après, vous avez le panneau suivant sur l'ancienne église de Saint-Étienne de Mer-Morte. Alors ce qui était très intéressant pour la reconstitution, c'est que nous avions les plans de l'ancienne église, les plans extérieurs. Alors ce qui nous a permis de faire une reconstitution, disons approximative, de son aspect extérieur en gardant l'ancien clocher et certains petits détails que certains n'avaient même pas remarqués, c'est la présence de cette petite croix ou aussi de la porte principale. Et dans la description qui est donnée par l'architecte qui a fait ce relevé, on s'aperçoit que l'ancienne église était fermée par le cimetière et disposait de 5 portes. Et en particulier d'une porte pour une personne qui se trouvait près de la porte processionnaire qu'on a située ici à l'extrémité de ce plan.
Je peux compléter l'explication du frère Guérin, puisque ces plans ont été faits par lui et ils sont bien jolis à contempler et on rêve avec beaucoup de plaisir sur les Saint-Étienne de Mer-Morte, en effet, dans les années 1836-1883.
La question générale qu'on vous a faite tout à l'heure à propos de la révolution, il a été question de l'abbé Roland, qui était curé à cette époque et qui a eu justement pas mal de démêlés avec l'histoire.
Donner la biographie complète de l'abbé Roland, ça peut être un peu long. On sait qu'il était né sur Saint-Herblanc, c'est-à-dire sur la paroisse de Roche-Blanche, et qu'il a été un curé apprécié de Saint-Étienne de Mer-Morte, tellement apprécié que la municipalité mise en place à Saint-Étienne de Mer-Morte par la Constituante, et qui était présidée par Mézard Thomas, dont les descendants habitent toujours Saint-Étienne de Mer-Morte à la Côte-Sardière. La municipalité s'est mobilisée autour de son curé et a demandé son maintien. Elle a eu à ce propos un certain nombre de problèmes avec le district de Machu. Et le refus de la nomination et de l'acceptation du curé constitutionnel a abouti à mettre l'abbé en totalement dans la clandestinité. Il s'est réfugié chez un certain de ses paroissiens et il a été arrêté, dénoncé. Il a été arrêté chez le maire lui-même, l'évêque, qui a été jugé et exécuté en place judiciaire à Nantes avec l'abbé Roland et avec son épouse. Il faut dire aussi au niveau religieux à cette époque que le vicaire de l'abbé Roland était l'abbé Reuard. L'abbé Reuard est lui aussi entré totalement dans la clandestinité, mais il se faisait passer pour ouvrier maçon, c'était Jean Gris, il a laissé ses mémoires, il a ensuite rempli un registre qui est visible dans cette exposition. Et laisser d'autres mémoires qui incarnaient en particulier que je voudrais bien retrouver, si par hasard quelqu'un savait où il est, à moins qu'il n'ait été laissé comme pas mal d'autres choses. Le Jean Gris, l'abbé Reuard, est revenu au sud comme curé de Saint-Étienne-de-Mer-Nord, et on lui doit le rachat d'une des parties des possessions de la cure, donc des biens de fabrique, et la construction du presbytère actuel. Avec les propres deniers, évidemment.
Là, nous passons à des tableaux faits à base de cartes postales.
Il aurait fallu voir que nous étions dans la période plus contemporaine, c'est-à-dire les plans communaux qui sont intéressants d'une part, et le tableau avec carte postale, c'est un tableau avec photographie qui représente la localisation de tous les calvaires de la commune en leur état. J'avoue que je ne les ai pas comptés, mais vous remarquez qu'il y en a au moins une bonne vingtaine. Hein? Oui. Au moins une bonne vingtaine. La plupart sont assez récents. Fin 19e, début 20e.
Un peu plus loin, nous retrouvons déjà les anciens abécédaires qui ont été utilisés dans les écoles. Alors, les plus anciens doivent se souvenir de ces panneaux, disons, avec un petit peu le sourire. Pour ça, c'est un clin d'œil lancé, disons, à la génération actuelle.
Moi, je suis parti des plus anciens, parce que Sœur Marie de Christ, qui utilisait cet abécédaire en classe maternelle, c'était pas la classe maternelle, ça s'appelait l'asile, ben, je pense qu'elle a bien tiré les oreilles, j'ai appris à lire là-dedans, personnellement. Alors, vous avez derrière une personne qui fait partie de
la première école ou la maternelle.
Alors là, je crois que c'est un panneau qui représente, disons, les anciens villages de cette zone de la mer Morte. Là, je pense qu'il y a des personnes ici là, qui pourraient vous donner, disons, un peu plus mot facilement sur ces anciens villages de Saint-Étienne.
Oui, disons qu'on a essayé de retrouver, si vous voulez, non seulement les origines du bourg aux Saint-Étienne, si on les connaissait, ils étaient très anciens, mais il y a des villages aussi qui parlent leur nom. Ils ont rappelé certaines choses, et donc on a essayé de savoir quelles étaient leurs origines, surtout l'époque. Donc on a retrouvé, c'est un début, hein, on a bien l'intention de continuer après l'exposition de l'exposition des cantons et des de chercher justement, d'après les parcelles et d'après les villages, les liaisons entre tous ces noms. Parce qu'on se rend compte finalement que vous avez des presses de noms, tels que le Martinet par exemple, qui est près du village, et d'après donc. D'après M. Perrois, ce serait une forge à l'origine. On a retrouvé des tas de choses dans ce martinet. On se rencontre la croix des Templiers dans un mur, qui est là-bas, la croix des Templiers. Et en même temps, on a voulu, si vous voulez, mettre les ponts, parce que comme on a des rivières un petit peu tout autour, les ponts servent en même temps souvent de limite de communes avec les autres. On a des 13 de ponts, tel que celui-ci, qui est un pont gallo-romain. Et puis, on a découvert aussi des ponts qu'on ne connaissait pas du tout. Par exemple, le pont de la Chevalerie, qui est ici, un petit pont rond, tout le monde dit pas, c'est pas du bien milieu de l'autre par an. Personne ne le connaissait, tout à fait particulier, aucune relation de femme avec les autres. Et puis, voilà. Je perçois sur cette photo une tour, c'est un moulin.
Un moulin.
Il existait 6 moulins sur les siennes, bon, il n'y en a plus que 3, dont 2 moulins, le moulin de la Combe, le moulin de l'Ébopin, qui sont encore 2 moulins avant.
Il reste venu là avant, et puis il y en avait d'autres, mais il y a plus. Et puis on trouve des tas de choses. Vous allez sur le bas. Ça, c'est à la Rondelière. Avec de grandes interrogations. Apparemment, un cadran solaire. Et puis l'autre, c'est ça.
Vous avez trouvé sur un bâtiment.
C'est sûr sur les bâtiments, hein. C'est sûr sur des maisons habitées actuellement. Hein. Mais on ne sait pas, on ne sait rien. C'est un mystère. Comme les pierres, par exemple, de la Potardière ou les tuyauteries, les tuyaux de la poudre. Mystère. On trouvera peut-être.
Nous arrivons devant le stand religieux de cette exposition. Là, on s'est rassemblés. Tout ce qui peut être trouvé comme objet religieux, soit du siècle dernier, soit même un peu avant, dans les différents greniers de la cour de la sacristie.
Tous les ornements religieux et liturgiques et tout ce qui a constitué, disons, la vie de la paroisse de Saint-Étienne de Narbonne. Alors là, je vais passer la parole à M. Thomas qui a travaillé avec art et qui, disons, doigté et savoir-faire pour reconstituer devant nous tout ce qui constituait la vie de la paroisse autrefois.
Si vous voulez, on peut commencer par l'hôtel, parce que c'est quand même pour moi la pièce principale. Et là, il y a de l'histoire, cet hôtel. C'est un hôtel qui a été trouvé dans le clocher. Il existe dans le clocher d'un clocher sur Saint-Étienne, et qui était dans un état de délabrement total. Tant est si bien que, à 3 ou 4, on a trouvé la construction de le remettre en état. Tel que vous le voyez là, évidemment, je ne pouvais pas comprendre ce qu'il était au départ. La charpente elle-même de cet hôtel a été refaite entièrement à l'atelier de M. Thomas de Saint-Étienne, Alfred Thomas, et qui lui-même a refait l'ossature, si vous voulez. Mais alors les reliefs qui apparaît en or là aujourd'hui, eh ben, c'est si vous voulez ce qu'on a retrouvé. Alors on l'a replacé dans les éléments et puis il a été doré par la suite. Son environnement, les deux anges qui sont là de part et d'autre de l'hôtel, appartiennent à cet hôtel. Ils existaient à l'époque dans l'ancienne église. Bon, évidemment, il n'y avait plus d'elle, tout ça a été reconstitué, repeint. Dans l'état où vous le voyez actuellement.
C'est un élément fondamental du reposoir de cet dieu qui se tenait devant le clocher.
Oui, il faut le dire, effectivement. Ce que vous voyez, il a été reconstitué une procession, là, à partir d'éléments. Vous avez le deuil, l'ancien deuil, une partie de l'ancien deuil, parce qu'évidemment, il avait un tas de choses autour de lui qui n'ont pas été retrouvées. Et en dessous, vous avez le sanctuaire, je ne peux pas dire de quelle époque exactement il était, mais il n'est pas daté, évidemment, de l'époque de l'hôtel. Tous les vêtements d'église, là, ont été retrouvés dans la sacristie. Ils ont été, évidemment, relevés en partie.
On y voit donc les costumes des choristes avec leurs petites robes rouges et leur surtout blanc.
Non, et avec dans l'un des choristes encore un petit peu le fait canal qui est retrouvé. Qui est mis en valeur.
Et toutes les bannières, y compris la bannière
des enfants de Marie, je peux vous dire qu'on a retrouvé le donateur. C'est une. La donation a été faite par la famille Goubreteau de Bastonchet. Oui. Une très jolie bannière.
La donation était de la Porte Saint-Cyprien.
Oui,
c'est de la Porte Saint-Cyprien.
Oui. Alors vous avez ici un tableau qui a été relevé aussi en partie. Il s'agit de la Vierge de Notre-Dame de Bon Secours, qui il y a peut-être une vingtaine d'années était encore dans l'église. On envisage d'ailleurs de la replacer dans l'église parce qu'elle a quand même une certaine valeur historique. Oui, elle a une valeur historique.
Les Saint-Noël l'ont vu sur le pilier droit de l'église pendant toute leur jeunesse.
Pas exactement. Oui. Alors bon, une plaque, la mission 1887, pour l'instant on ne sait pas à quel calvaire attribuer cette plaque-là. Il est vraisemblable, je pense que ça appartient au calvaire qui était en face, ce chariot-là,
le calvaire de la cour.
Je pense que ce serait ça.
à moins que ce soit celle qui se trouvait au calvaire, marquant la bonne entente des curés de la région qui se réunissaient, disons, au siècle dernier, tous les quatre, à la limite des paroisses de la Garnage, de Pau, de la Marne et de Saint-Étienne, et se mettant chacun à pied sur une borne dégustant, disons, leur pique-nique, disons ça, en souhaitant que tous leurs paroissiens s'entendent aussi bien. Alors, c'est peut-être de ce cadre-là aussi. Mmh. Moi, je ne sais pas où il se trouvait encore.
Charmante anecdote.
Là, vous avez une cloche. Cette cloche, quand, si vous voulez, l'église actuelle, quand le pignon a été restauré, elle était placée sur ce pignon. Et au moment de la restauration, l'autorité qui en avait décidé de la restauration avait décidé de descendre cette cloche parce que ça gênait pour les travaux. Et elle avait été entreposée pendant de nombreuses années. Ça, c'était sur le temps de M. Mollier qui était mort, le fait. Hein. Elle a été placée chez le maçon qui avait fait la réparation et qui en est ressorti ces derniers jours.
Vous avez aussi un petit reliquaire qui est à côté.
Le reliquaire de Saint-Étienne. Autrefois, au moment de la chope de Saint-Étienne, il était ressorti, il était sur un brancard. Il était porté par quatre personnes, des hommes. On faisait avec ce reliquaire le tour de Saint-Étienne en procession.
Et puis à côté, j'aperçois une vieille petite statue qui se trouve dans certaines paroisses en Nord, à la Bernerie en Rex. Je crois que c'est le petit Jésus de Prague.
Voilà, je ne sais pas vous dire
vraisemblablement, il vient de l'ancienne église.
Oui, parce qu'il a une facture, celui de la Bernerie est récent, c'est ce qu'il apporte aux inconnus d'histoire. Celui-ci a une facture beaucoup plus ancienne qu'il a eu d'ailleurs.
On pourra peut-être passer maintenant, si vous voulez, sur une partie historique avec la reconstitution que les enfants ont fait du château de Gilles de Ré.
Un chef-d'œuvre de réalisation, je pense qu'ils ont été bien aidés par Frère Guérin pour cette réalisation qui est extrêmement parlante.
Alors, dans cette reconstitution, d'abord vous pouvez voir le nom de tous les enfants qui ont participé, et ça leur a demandé, disons, pas mal de travail et surtout de patience. C'est ce qu'il faut réaliser, donc, sur les créneaux, les tours. Les plus grosses difficultés qu'ils ont rencontrées, ce sont les poivrières. Et on peut admirer, ils ont leur travail et la patience qu'il leur a fallu pour arriver à reconstituer ce château. C'est une reconstitution, donc on s'est basé sur l'extérieur du château de Gilles de Ré, vu d'après les cadastres. Alors tout ce qui est apparti à l'intérieur des murs, ce sont simplement des suppositions. Est-ce que la petite maison qui devait, qu'on a supposé être les granges ou les réserves pour les soldats ou les chevaux existait à cet endroit-là? Ce n'est pas sûr. Est-ce qu'elle existait même? Ça, c'est encore moins sûr. Et quant à la présence du pont levis sur ce côté-là, là aussi, c'est une supposition. On l'a mis venant sur Saint-Étienne-de-Mer-Nord, mais il pouvait très bien se trouver ailleurs. Quant à la tour principale, il nous semble avoir été celle qui est restée le plus longtemps. Alors, ils l'ont reconstitué de cette façon-là. C'est un aspect extérieur en se basant sur les châteaux de la même époque.
C'est très intéressant, c'est très vivant comme présentation, puisque les enfants ont même mis des petits personnages en porcelaine tels qu'on les trouve dans les galettes des rois.
Alors là, nous sommes en plein travail historique, mais de l'histoire des gens et un travail de recherche sur le terrain, puisque c'est une reconstitution de tous les anciens chemins, c'est-à-dire ceux qui ont existé, qui ont permis aux Stéphanois de se déplacer, avant que ne soient construites les routes dites stratégiques du 19e siècle. Vous savez, quand on voit la superbe route droite de Pau à Tudor, qui est d'ailleurs soigneusement Saint-Étienne, mais c'est bien dommage. Cette route n'a pas été la route historique de Stéphanois. Ce travail a été fait par la commission municipale et sur le terrain avec les plus anciens qui sont allés sur place pour connaître les chemins dont la plupart malheureusement disparu avec la boue moderne et le remembrement en particulier. Mais c'est un travail énorme qui est encore à compléter parce qu'il y a un certain nombre de choses redécouvrir. Madame du Breton qui était ici en a été la cheminée hier, je pense qu'il aurait pu en parler beaucoup plus avant moi.
Non, mais c'est vrai qu'on a pris en charge cette carte. On a réuni les anciens deux, trois fois. Alors, on a conseillé les apprentis du formidable avec eux, qui sont bien nouveaux. Et puis, ça nous a permis de retrouver des chemins qu'on avait complètement oubliés, des choses, comme disait M. Clairois tout de suite, avec le remembrement et toutes les transformations, n'existe plus. En fait, c'est des axes très importants autrefois dans la vie des environs, de la commune, des environs. On revient, il y avait pas le fond de chemin d'Arton qui bordait un petit peu Saint-Étienne, qui était un axe très important pour les pèlerins, et le fameux Bonaton qui traversait complètement la commune. Et c'est pas justement aussi, certainement l'axe primordial pour l'activité, ben, comme vous voyez tous. La plupart des chemins très très anciens et les plus importants, existaient sur l'histoire. Hein. Toujours la même histoire.
Pauvre Saint-Étienne. Alors, il faut mentionner aussi le travail très important de recherche fait par les élèves des écoles, en particulier avec une étude sur Gilles Deray, la faite par les CE1 et CE2. Et puis là, les CM2 ont fait un travail sur les cahiers de doléances, avec des relevés, par exemple, problèmes de passage en Poitou, l'intérêt sur la question des impôts et des charges. Alors, c'est un travail qui a été réalisé par les enfants des écoles, s'intéressant, disons, à la vie de la commune. Et c'est ce qui fait, donc, on peut dire que toute la province, enfin, toute la commune de Saint-Étienne a œuvré pour cette exposition. Alors maintenant, on va peut-être pouvoir passer également aux vitrines où sont exposées des documents encore plus intéressants. Alors, dans les vitrines, vous avez donc des vieux livres qui sont exposés, des manuscrits. Vous avez ici une assiette pour célébrer l'anniversaire, le 25e anniversaire pour Saint-Étienne de Manon, une assiette illustrée. Alors, vous trouvez dans la deuxième vitrine des restes de l'époque gallo-romaine. Alors, vous avez un pied d'amphore et vous avez une canalisation de l'époque gallo-romaine. Ensuite, ben, on va retrouver des armes de l'époque de la préhistoire avec des haches en pierre polie et puis haches en bronze. Alors ensuite, là, peut-être quelqu'un qui soit un peu plus compétent que moi pour présenter là le registre paroissial écrit par l'abbé Roard mentionnant, disons, toutes ses activités pendant l'époque de la Révolution. Alors, c'est un registre, c'est une source pour les chercheurs, disons, inestimable. Alors, après, vous avez une troisième vitrine montrant les activités de poterie avec différents instruments. Vous avez un pesant, vous avez là-bas une boussole et puis des petites miniatures qui ont été réalisées par quelqu'un de Saint-Étienne-de-Mermoz, représentant en particulier les anciennes poteries traditionnelles comme les charniers à lard, les qu'il fallait pour l'eau, pour le beurre, etc. Pour le cochon, le charnier. C'est là ici, vous avez des très vieux livres également qui sont représentés. On ne connaît pas du bon tout l'origine ni leur but.
Du coup, je vous ai retrouvé sur la commune.
Ah ben ça, c'est sur la commune, c'est sur Saint-Étienne. Tout ce qui est ici vient de Saint-Étienne de Marne. Vient de Saint-Étienne de Marne. Alors là, on peut dire que c'est un travail formidable qui a été fait par tout le monde. Alors vous avez là derrière des choses, disons, assez intéressantes que les vieilles personnes, disons, reconnaissent facilement, les petites charrettes pour les bébés, les berceaux. Ah oui, c'est la charrette, allez-vous. Et puis alors, ce qu'il faut pour les coiffes, les vieux instruments, les vieilles lanternes, les vieilles machines à coudre, où il fallait tourner à la main, etc.
Même un jouet d'enfant, un cheval à roulette, qui serait peut-être aidé depuis un enfant d'aujourd'hui, par son caractère tout à fait, je dirais, positif et certainement efficace, c'est le routinier ronde. Hein.
Alors, on va peut-être demander à M. Ferroy, disons, ancien de la commune de Saint-Étienne, disons, de faire la conclusion.
Très volontiers.
Ah ben, je vous remercie de me faire cet honneur. Je me bornerai à souhaiter que le travail limité, le travail et la qualité du travail qui ont été faits, ont été accomplis. Mais que tout puisse continuer dans l'avenir. Oui.
Voilà, nous avons fait pour vous le tour de l'exposition. Nous ne vous avons pas tout montré, ni tout mentionné. Si vous avez à cette scène, vous découvrirez bien votre richesse. Et je vous souhaite surtout de découvrir au cours de votre vie tous ces liens d'amitié, d'entraide, toutes ces compétences qui se sont séjours à l'occasion de l'organisation de cette exposition. C'est là la vraie richesse de Stéphanois, celle qui vit dans l'enthousiasme et la fierté autour de leur sujet et de leur mère. Merci à eux tous de nous avoir si bien accueillis et partagé le meilleur de même pour vous.
On est 14h53 sur Radio Fidélité. Après la Loire-Atlantique en flamand, nous allons écouter un morceau de Mozart, la petite musique de nuit, en attendant les êtres de 15h.